Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons parler des réfugiés et plus spécifiquement des réfugiés maliens. Ils sont au nombre de plus de 141 000 dans les pays voisins, notamment en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Et ces réfugiés sont essentiellement originaires des régions du nord du Mali. Ces informations sont communiquées par le ministère de l'Action humanitaire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés aujourd'hui. Alors, quelles sont les conditions de vie de ces réfugiés maliens? Quelles sont les mesures prises pour leur retour? Ceux qui sont déjà revenus bénéficient-ils d'un accompagnement? Alors ce sont entre autres questions auxquelles nos invités vont répondre ce soir. Ils sont Tony Toumaga du HCR et Siakaba qui va nous rejoindre au cours de l'émission également du HCR. Nous avons également Imal Kamar qui est réfugié au camp de Mera et le gouverneur de la région de Kidal. Je rappelle que nos tentatives pour avoir un responsable du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire sont restées vaines.
Le Grand Dialogue.
Alors nous parlons ce soir des réfugiés. Monsieur Tony Toumaga, vous êtes au niveau du HCR. Et est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de la situation des réfugiés maliens dans les différents camps des réfugiés?
Oui, merci beaucoup. Je veux juste corriger. Mon nom, c'est Tony Toumagou.
Tony Toumagou.
Je suis chargé du rapatriement au niveau du HCR ici à Bamako. Merci aussi. Je profite de ce plateau pour remercier le studio de l'invitation qui nous a été envoyée et pour aujourd'hui, qui est le 20 juin, de parler de la situation de réfugiés et aussi, c'est pas seulement des réfugiés, mais aussi des rapatriés et d'autres personnes qui relèvent de la compétence du HCR. Avant peut-être de répondre à la question, je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire que le 20 juin, c'est la journée de réfugiés, mais c'est pour le HCR, c'est plus une journée de sensibilisation à la cause des réfugiés. C'est une journée où nous appelons, que ce soit la communauté internationale, la population hôte qui accueille les réfugiés, et même les réfugiés eux-mêmes, de les sensibiliser sur la cause des réfugiés, sur tous les problèmes, tout ce qui entoure les réfugiés. Alors pour répondre à la question aujourd'hui, principalement, comme vous l'avez dit aussi dans votre introduction, il y a 143 000 réfugiés maliens qui vivent principalement dans les camps, dans les pays limitrophes du Mali, à savoir le Niger, qui compte autour de 60 000, le Burkina Faso qui en compte un peu plus de 33 000, et la Mauritanie qui en compte 50 000. Évidemment, il y a aussi d'autres réfugiés dans d'autres pays, mais je m'arrête sur ces chiffres qui sont les plus importants. Au niveau de ces différents pays, les réfugiés sont soit dans des camps de réfugiés, mais il y en a aussi qui vivent dans des zones urbaines, notamment au Burkina Faso ou au Niger, où on trouve un grand nombre de réfugiés qui sont dans les zones urbaines.
Alors, monsieur Ilal Kamar, vous êtes réfugié au niveau du camp de Mbera. Pouvez-vous nous parler des conditions de vie des réfugiés au niveau de ce camp? Monsieur Ilal Kamar, vous êtes avec nous? Monsieur Ilal Kamar. Alors, nous allons revenir avec Monsieur Tony Toumagou. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les réfugiés qui vivent au niveau des camps et les réfugiés qui sont au niveau des zones urbaines? Comment vous arrivez à superviser tout cela?
Merci. Je vais tenter une réponse, sachant que nous sommes en train de parler des réfugiés qui vivent déjà dans des pays d'asile, et alors que ici nous sommes au Mali. C'est là. Disons la position géographique en fait ou bien territoriale qui identifie les réfugiés qui sont au camp et les réfugiés qui sont dans les zones urbaines ou bien qu'on appelle communément les réfugiés urbains. Comme dit son nom, hein, le réfugié urbain, c'est le réfugié qui vit, par exemple, si on prend le cas du Mali, il y a des réfugiés ici au Mali, mais qui vivent ici à Bamako. Ils sont voisins de vous et de moi. Et ce sont des réfugiés qui vivent le quotidien de tout le monde. Ils sont dans les villes urbaines. Ça peut pas, c'est pas nécessairement la capitale, mais ça peut être aussi d'autres villes, des régions. Là, ce sont des réfugiés urbains. Les réfugiés qui sont au camp, la plupart des fois, il y a des réfugiés qui ne peuvent pas se prendre en charge et par rapport à une certaine vulnérabilité, notamment que ce soit au niveau de l'habitat, que ce soit au niveau de d'autres prises en charge, l'alimentation, la scolarité, et la santé et autre chose, ils sont comme qui dirait regroupés dans un camp où on peut, où le ASR avec ses partenaires évidemment, et bien sûr le gouvernement qui est l'État, qui est le premier responsable de la gestion et de la protection des réfugiés, peut facilement apporter l'assistance, qui serait un peu difficile s'ils étaient éparpillés dans les différents quartiers. C'est juste là la différence d'un réfugié urbain et d'un réfugié dans le camp.
Mais est-ce que c'est un choix des réfugiés qui relève des réfugiés eux-mêmes?
Oui. Normalement, c'est un choix. Il n'y a pas de restriction comme telle pour un réfugié, pour qu'il soit dans le camp, soit dans les zones urbaines. Seulement, il y a des règles qui régissent un camp. Si on accepte d'aller dans le camp, bien sûr, on accepte aussi de vivre sous ces règles-là. Et en zone urbaine, c'est vraiment un choix. Si on pense qu'on est, on peut se suffire d'une certaine façon, on peut être dans les camps, dans les zones urbaines. Ici au Mali, il n'y a pas, à ce que je sache, de camps. Et les réfugiés vivent et ils vivent
dans
très bien.
Dans les zones urbaines.
Oui. Bien sûr, avec des difficultés, mais bon, quand même, ils sont dans les zones urbaines.
Ouais. Je rappelle que le réseau Nous Jouons en Tour, nos invités sont Tony Toumagou et Sia Kaba du HCR, et également, il devait y avoir Ila Dag Mohamed qui n'est pas encore disponible au téléphone, également Imal Kamal qui est le réfugié qui est au niveau du camp de Béra, également pas encore disponible. Toutefois, le gouverneur Sidi Mohamed Ag Ishrach est disponible. Et tout de suite, avant de lui donner la parole, on va rester dans les questions techniques et donner la parole encore à M. Tony Toumagou. Est-ce que les conditions d'accueil sont les mêmes dans tous les pays concernant les réfugiés, les conditions d'accueil des réfugiés?
Comme j'ai dit tantôt, la responsabilité première de la gestion et de la protection des réfugiés est dévolue à l'État. Et évidemment, chaque État vote ses lois, et parfois il y a des divergences entre un pays ou un autre dans les conditions d'accueil ou dans la façon d'accueillir et de prendre en charge les réfugiés. Les lois ne sont pas les mêmes pour tous les pays, hein, vous consentez avec moi. Et dans la gestion même, il y aura quelques différences. Cependant, le ASR est là pour essayer d'aider les gouvernements, d'aider l'État, les différents États, à mieux gérer les réfugiés, à mieux protéger les réfugiés. Même s'il y aurait des différences, étant donné que la plupart des États, surtout des États africains, sont partis des conventions, que ce soit la convention de 1951 ou bien la convention de l'OIA sur la protection des réfugiés, ils ont signé des conventions et c'est sur base de ces conventions que le ASR va essayer d'aider ou bien d'amener les différents États à appliquer ces conventions. Et normalement, dans l'application de ces conventions, nous devrions arriver à une gestion, je dirais, commune, à une gestion semblable des réfugiés. Mais comme je disais tantôt, chaque pays étant souverain, il vote ses lois. Et il peut y avoir quelques différences. Mais aussi, chaque pays aussi a ses problèmes internes. Et ces problèmes internes peuvent aussi amener à, je ne veux pas utiliser le mot restreindre, mais à limiter certaines participations, certains droits que d'autres pays. Mais comme je reste vraiment sur la différence des lois entre les pays qui peuvent aussi influer sur la différence dans la gestion ou bien dans la prise en charge de réfugiés.
Alors, Monsieur le gouverneur Sidi Mohamed Ag Ishrach, vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir. Alors, Kidal, on le sait, est touché par l'insécurité et la plupart de la population se sont réfugiés ou déplacés dans d'autres zones. Est-ce que vous savez à peu près approximativement le nombre de personnes qui ont quitté Kidal pour se réfugier dans d'autres, d'autres pays?
Malheureusement, non, je ne peux pas vous donner un chiffre. Mais vous pouvez estimer que c'est un chiffre qui est assez important.
Monsieur le gouverneur, oui. Aïe, le réseau, je le dis, ce soir n'est pas du tout avec Studio Tamani. Nos invités, Tony Toumagou, Siakaba, qui sont du HCR, et je rappelle qu'ils sont beaucoup plus concernés par les questions de rapatriement. Et également, le réfugié de Hilal Kamar est maintenant en ligne. Bonsoir, Monsieur Kamar.
Bonjour, bonsoir à la radio Tamani, bonsoir.
Ah, excellent, vous êtes avec nous maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de vie des réfugiés qui sont au niveau du camp de Mbeira?
Les conditions de vie des réfugiés qui sont à Mbeira, maintenant à l'heure actuelle, ça va. Ici, au moment où il y a des ruptures, quelques ruptures, mais maintenant, quand même, avec la petite assistance que nous avons, même si ce n'est pas à 100%, ça va. Les gens parviennent à
Et je rappelle qu'on ne vous entend pas très bien. C'est parce qu'il pleut chez vous en Mauritanie.
On est sur un grand vent, on est sur un grand vent en Mauritanie, ici, à l'état de Mbeira. J'ai dit la situation des réfugiés, quand même, la partie de façon passable à notre ici. Les HCR assistent avec ses capacités, mais vu le nombre énorme de réfugiés dans le monde, je peux faire ça.
Voilà, donc je résume un peu ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que les conditions de vie au niveau du camp de Mbeira se sont améliorées et que le HCR est en train de vous appuyer à travers des dons de vivres, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler du nombre de réfugiés qui se trouvent au niveau du camp de Mbeira?
Ils sont à peu près à 53 000. Ils sont à peu près 53 000.
53 000 tous des Maliens.
Des Maliens, réfugiés à Mauritanie.
Excellent. Alors, aujourd'hui, c'est votre journée. Qu'est-ce que cette journée, le 20 juin, ça représente pour vous?
Le 20 juin représente une grande journée, une journée de joie, une journée de retrouvailles, une journée de fête. Chez nous, on l'a toujours fêté, on l'a fêté aujourd'hui.
Alors, voilà, nous... Ok, monsieur Hilal Kamar, je rappelle qu'on va présenter nos excuses aux auditeurs. La qualité sonore n'y est pas. C'est parce que c'est les conditions également. Ils vivent dans des camps et avec le vent, la pluie, les conditions ne peuvent pas être très bonnes. Monsieur Tony Toumagou, toujours HCR, est-ce qu'il y a une baisse du taux de Maliens qui quittent le pays pour se réfugier ailleurs dans les autres pays depuis la signature de l'accord pour la paix?
Oui, nous pouvons dire qu'il y a une baisse. Juste après la crise, avec la crise, il y a eu beaucoup de Maliens qui sont allés à l'extérieur. Il est vrai que depuis quelques temps, on connaît quelquefois avec les différentes situations d'insécurité dans le nord ou bien dans le centre, il y a quelques personnes qui traversent la frontière pour chercher asile dans les pays limitrophes, certes, mais par rapport à la crise et la grande majorité qui a quitté le Mali, nous pouvons dire que ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand les gens sont partis au départ, ils étaient à des milliers. On avait jusque... si je ne me trompe pas, jusque dans les 400 000, on parlait à un moment donné. Mm-hmm. Mais maintenant, on ne parle pas de 100 000, de 10 000. Maintenant, les chiffres sont peut-être de 5 000 ou de 6 000. Donc, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer quand il y avait la crise et que les gens ont quitté le pays et maintenant. comme je disais tantôt, certes, il y a des gens qui continuent à partir à cause de la situation sécuritaire.
Ils continuent à partir. Est-ce que leur nombre est élevé?
Non, le nombre n'est pas aussi élevé. Ça dépend aussi de ce que vous dites par rapport à élevé.
Statistiquement, est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, lors de la réunion tripartite la fois dernière en Mauritanie, on nous a fait part d'à peu près 5000 personnes.
Par 5000 personnes qui ont quitté
le Mali pour aller vers la Mauritanie. Mais c'était des chiffres qui n'étaient pas encore confirmés.
Mais dans quelle période, quoi?
Là, nous parlons de 2016.
2016, ok. Oui.
Et il y avait aussi un chiffre à peu près pareil pour le Niger. Mais comme je disais tantôt, ces chiffres, en comparaison, pour répondre vraiment à votre question, en comparaison avec le début de la crise, on peut comprendre que c'est deux chiffres incomparables.
Monsieur, est-ce que monsieur le gouverneur est avec nous?
Oui, je suis là.
Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez de retour des réfugiés de votre région, les réfugiés de Kidal, les Maliens qui vivaient à Kidal, qui se sont réfugiés dans d'autres pays? Est-ce que vous avez des nouvelles de ces Maliens?
Oui, vous savez, la situation, elle est identique. Hein? La situation des réfugiés est créée par l'insécurité ambiante. Comme je vous disais tout à l'heure, pour ce qui concerne la région de Kidal, c'est surtout les combats qui ne s'arrêtent pas entre les différents groupes armés. Mais chaque fois qu'il y a une accalmie, chaque fois qu'il y a un espoir de paix, vous avez des familles qui reviennent, mais quelques temps après, les mêmes familles ou bien d'autres repartent. Donc, on ne peut pas vous dire exactement combien de gens reviennent, parce que vous savez qu'il n'y a pas l'administration dans la République Kidal, donc il n'y a pas de statistiques. Mais vous savez, je ne vais peut-être pas exagérer en vous disant qu'on peut estimer très raisonnablement que près de 60% de la population de la région de Kidal est aujourd'hui réfugiée en Algérie, soit déplacée à l'intérieur du Mali.
Plus de 60%, c'est quand même énorme. Est-ce que vous avez des retours sur leurs conditions de vie? Comment ils vivent dans les différents camps de réfugiés ou même à l'intérieur?
En Algérie, il n'y a pas de camps de réfugiés. Les populations vivent dans les centres urbains. Mm-hmm. Vous savez, la continuité de la population Touareg dans le sud du nord du Mali vers le sud algérien fait que la solidarité traditionnelle joue énormément. Et puis le gouvernement algérien aussi, les autorités locales aident beaucoup ces déplacés-là par des dons, l'assistance alimentaire, les médicaments, etc. Mais il n'y a pas de camp de réfugiés au sens international du terme, c'est-à-dire sous contrôle du HCR. Mais il y a le Croissant Rouge algérien qui aide les populations réfugiées. La situation à l'intérieur du pays, elle est vraiment mi-figue, mi-raisin. Si je dois parler de la situation des déplacés à Bamako ou bien même à Gao, il y a de l'assistance de la part du ministère de la Solidarité et du ministère de l'Action humanitaire. Il y a des distributions de vivres, des distributions gratuites. Mais il y a le grand problème qui n'est pas géré, c'est celui de la prise en charge des enfants en âge d'être scolarisés. Donc ces enfants-là s'entassent souvent dans des familles qui les hébergent et il n'y a vraiment pas d'assistance pour les élèves, ni pour les élèves, ni pour les étudiants.
Donc, je rappelle qu'il y a une petite différence entre les deux, les réfugiés et les déplacés. Les réfugiés sont ceux qui ont quitté le pays pour un autre pays et les déplacés sont ceux qui sont restés dans le pays toujours. Alors, monsieur...
Du point de vue juridique, c'est ce que vous dites, mais du point de vue de la situation, des conditions de vie des populations, ça n'a pas beaucoup de significations.
Ok, c'est un peu la même chose. Alors, monsieur Tony Toumagou, le gouverneur vient de le dire, la plupart des réfugiés qui ont quitté Kidal sont partis en Algérie. On cite beaucoup plus la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso parce qu'il y a des camps de réfugiés là-bas. Maintenant, dans ces pays comme l'Algérie où il n'y a pas de camps de réfugiés, est-ce que le HCR intervient pour appuyer ces réfugiés?
Je ne dirais pas qu'on cite plus la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso parce qu'il y a des camps. Ce n'est pas parce qu'il y a des camps qu'on cite ces pays. C'est parce qu'on a la maîtrise. de la maîtrise dans ce pays-là. Malheureusement, les personnes qui ont quitté le Mali...
La maîtrise du nombre de réfugiés et de l'aide que vous leur apportez.
Et de la protection. Hein, okay. On parle de l'aide, mais je pense qu'on devrait plutôt plus parler de la protection. Au niveau de l'Algérie, certes, il y a des personnes qui ont quitté le Mali pour aller en Algérie, mais nous n'avons pas la maîtrise de ces personnes, parce que ces personnes n'ont pas eu... accès à une procédure de demande, à une procédure de détermination de statut de réfugié. Et cela nous met un peu dans l'embarras, même quand ils rentrent. Et c'est donc peut-être dans ce cadre-là que on a mis, contrairement aux autres qui arrivent et qui sont directement enregistrés, pour les personnes qui viennent de l'Algérie, il y a des mécanismes, je dirais, spéciaux qui ont été mis en place pour pouvoir les identifier et les enregistrer. Ce qui n'est pas la même chose, par exemple, pour les autres, parce qu'ils viennent avec des papiers qui prouvent qu'ils ont été en contact avec le HCR dans les pays d'asile, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. Donc on ne peut pas dire que on parle plus de la Mauritanie, du Niger et de Burkina Faso parce qu'on parle seulement de ces personnes, mais c'est plus parce qu'on a la maîtrise, il y a le HCR dans ce pays qui a accès à ces personnes, ce qui n'est pas la même chose que l'Algérie.
Ok, on va observer une petite pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, alors ce soir c'est un débat un peu exceptionnel. Nous parlons de la situation des réfugiés des Maliens, sauf que avec nos invités il y a un petit problème de réseau. Il a Dag Mohamed qui n'est pas disponible, qui représente la CMA. Imal Kamar, réfugié au niveau du camp de Mbera, également un peu difficile à joindre. Et aussi le gouverneur de Kidal, avec lui également il y a un petit problème de réseau pour le moment. Nous sommes avec Tony Toumagou qui représente le HCR. Alors, Monsieur Tony Toumagou, il y a une pétition du HCR qui demande au gouvernement d'assurer que chaque enfant réfugié soit scolarisé, que chaque famille réfugiée puisse vivre en lieu sûr et que chaque réfugié puisse travailler ou acquérir de nouvelles compétences afin de contribuer à sa communauté. Est-ce que les gouvernements respectent cette demande?
Oui, déjà le gouvernement, avec leur signature de leur signature de convention, que ce soit de 51 ou bien la convention de l'OEA pour la protection des réfugiés, ont accepté, de protéger les réfugiés et d'apporter ces différentes assistances ou bien ces droits aux réfugiés. Certes, maintenant qu'il y a certaines difficultés suivant les circonstances ou bien les conditions socio-économiques de chaque pays. Et c'est là que je disais qu'il appartenait au HCR d'accompagner le gouvernement et de les amener à pouvoir mettre en place des structures ou bien des infrastructures ou bien de mécanismes pour pouvoir assurer ces droits aux réfugiés.
Alors, bien sûr, ces droits, on a vu qu'il y a à peu près plus de 170 réfugiés maliens qui participent à l'examen de baccalauréat. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils suivent des cours dans les différents camps de réfugiés?
Au niveau du Mali ou au niveau de...
Au niveau de l'extérieur, plus de 170 réfugiés maliens qui sont en train de participer à l'examen de baccalauréat dans les différents camps de réfugiés. Comment cela se prépare?
Je n'ai pas exactement les informations par rapport à comment ça s'est préparé, mais juste pour dire que c'est un droit à l'éducation. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le camp de réfugiés qu'on ne peut pas étudier convenablement et suivant soit le cursus du pays qui vous accueille ou bien le cursus du pays d'asile. Tout dépend maintenant de quel le programme de gestion de camp qui est mis en place. Donc il n'est pas exclu que peu importe où le réfugié se trouve, que ce soit en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso ou ailleurs dans d'autres pays, que le réfugié ayant suivi un cursus normal puisse participer à l'examen de baccalauréat.
Alors, vous allez nous excuser ce soir, on va un peu vous fatiguer, vous êtes seul, le réseau n'est pas avec nous, donc du coup,
il n'y a pas de problème.
Alors, donc, est-ce que vous pouvez également nous parler de la protection des réfugiés? Comment cela se fait, la protection des réfugiés dans les camps de réfugiés?
je ne veux pas seulement m'étendre sur la protection des réfugiés dans les camps des réfugiés, parce que tous les réfugiés, qu'ils soient dans le camp ou pas dans le camp, ils sont tous protégés de la même façon. Et je disais au début que la protection des réfugiés est de la responsabilité d'abord des États. Et je peux, pour ne pas être très long...
Les États qui les accueillent.
Les États qui les accueillent, justement. Pour ne pas être très long, je résumerai juste cette protection dans la jouissance de droits. Parce que les réfugiés, ce sont des personnes et ils ont aussi des droits. Et c'est dans la jouissance de ces droits que vient aussi leur protection. Dans la protection, on ne va pas seulement penser à la protection physique. Parce que la plupart des fois, quand on parle de protection, les gens pensent à la sécurité. Mais au-delà de la sécurité, il y a aussi des droits. Ça peut être le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation, le droit à la santé, et le droit à tous les droits, les libertés. C'est dans la jouissance de ces droits et de ces libertés que vient la protection. Quand un État va permettre ou bien va mettre en place des mécanismes ou bien des infrastructures pour permettre à ce que les réfugiés puissent jouir de leurs droits, il sera en train de les protéger. Ça va être aussi dans la protection physique contre les abus, contre la stigmatisation, contre la persécution et bien d'autres abus. L'État va mettre en place des mécanismes pour les protéger dans ce sens, pour ne pas que ils retombent dans ce qu'ils ont fui. Les personnes ont quitté leur pays parce qu'ils avaient une peur d'être persécuté, se retrouverait encore dans le même pays qui était censé le protéger, encore le persécuter. C'est un peu dans la mise en commun, si je peux dire, de tout ça qui fait la protection des réfugiés. Et je répète encore, ce n'est pas seulement la protection ne s'applique pas pour les réfugiés qui sont dans les camps. La protection, c'est la protection pour tous les réfugiés, qu'ils soient dans le camp ou en milieu urbain.
Alors, parlons maintenant du retour des réfugiés. C'est votre spécialité. Vous êtes chargé des questions de rapatriement au niveau du HCR. Est-ce que le nombre de réfugiés, on parle de près de 60 000 réfugiés maliens qui ont été rapatriés depuis 2012. Est-ce que les chiffres sont exacts?
Nous parlons plutôt de 58 315 à la date du 30
Donc,
avril.
Donc près de 60 000.
Oui, on dirait près de 60 000, mais je préfère rester dans mes 58 000 au 30 avril 2017. Nous sommes un peu très stricts au niveau de nos chiffres.
Ok. Maintenant, les réfugiés qui sont retournés, est-ce que ces réfugiés concernent beaucoup plus quelle région? Parce qu'on sait que ces réfugiés ont beaucoup plus quitté les zones touchées par l'insécurité, notamment Mopti et le nord, le centre et le nord du pays. Est-ce que, quand on sait que Kidal, par exemple, il y a toujours l'insécurité là-bas et également la région de Mopti. Est-ce que ces réfugiés, quand ils retournent, ils rentrent directement chez eux ou bien ils restent à Bamako?
Nous avons remarqué, et ce n'est pas seulement une particularité pour le Mali, désolé, mais je m'excuse. Nous avons remarqué, comme je disais, mais ce n'est pas une particularité pour le Mali, que la plupart des fois, les réfugiés, quand ils se rapatrient, ils retournent, ils se rapatrient dans la zone, dans sa zone d'origine. Et le Mali, et ici au Mali aussi, on a remarqué que la plupart des Maliens qui ont quitté le Mali à cause des crises, des différentes crises que le Mali a connues, sont retournés, se sont rapatriés dans les mêmes zones, dans les mêmes localités. Et comme vous le savez, la crise a touché plus le nord. Donc, vous pouvez aussi comprendre que c'est la population du nord et du centre qui s'était déplacée. Et c'est les personnes qui retournent reviennent toujours dans ces régions-là. À titre d'exemple, nous pouvons citer par exemple la région de Menaka, la région de Tombouctou, la région de Gao. Ce sont les régions qui connaissent le plus grand mouvement de rapatriement. Le plus grand chiffre de rapatriement se trouve dans ces zones-là. Évidemment aussi, il y a des chiffres assez importants aussi au niveau du centre, notamment Mopti. De plus en plus, on commence à voir aussi des chiffres qui montent au niveau de Ségou.
Alors, Monsieur le Gouverneur, vous êtes avec nous maintenant, Sidi Mohamed Ag Ishrach. Est-ce qu'il y a des réfugiés de Kidal qui sont retournés? Monsieur le Gouverneur? Alors, je rappelle que ce soir, nous parlons de la situation des réfugiés. Oui, vous avez des chiffres par rapport à Kidal ?
Oui, oui, justement, par rapport à Kidal, nous avons aussi des réfugiés ou bien des rapatriés mm-hmm. qui ont été enregistrés au niveau de Kidal. Plus de 1500 personnes. Et juste pour répondre à la question, comme le gouverneur.
Je le disais que vous pouvez répondre à beaucoup de ces questions. Alors, concernant toujours les mesures qui sont prises pour le retour des réfugiés, il y a également l'accord tripartite. Est-ce que vous pouvez nous parler concrètement des mesures qui sont prises pour aider ces réfugiés qui veulent rentrer à revenir au Berkay?
Oui, quand on parle de l'accord tripartite, je dirais plutôt les accords tripartites, parce que jusque-là, le Mali a signé 3 accords tripartites avec les 3 pays. Je cite le Burkina Faso, le Niger et
la Mauritanie.
D'ailleurs, pour la signature de l'accord tripartite avec la Mauritanie, c'était seulement en juin 2016. Je dirais que les accords tripartites, ce sont la base légale même du rapatriement volontaire. Mais ce n'est pas l'accord tripartite qui impulse les rapatriements. Parce que avant même la signature des accords, on remarque des réfugiés qui, de leur propre gré, veulent rentrer dans leur pays, veulent se rapatrier. Et c'est ce que nous appelons déjà le rapatriement spontané. Donc on ne cautionne pas un rapatriement par la signature, parce qu'il y a déjà un mouvement qui se déclenche avant même que les deux gouvernements plus les ACR s'asseyent pour signer les accords. Mais l'accord tripartite, pour vraiment être très simpliste, c'est un accord où les deux gouvernements, bien sûr avec le ACR, vont s'accorder sur un certain nombre de mesures pour permettre à ce que le rapatriement s'efface dans des conditions de sécurité et de dignité. Ce sera peut-être des allègements ou bien des assouplissements dans certaines lois ou bien dans certains contrôles à la frontière. Ce sera la désignation peut-être des points de passage, et c'est tout une arsenal de réponses par rapport à la question du rapatriement volontaire.
Juste rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que ce soir, c'est un débat qui a été prévu, qui est transformé malgré nous-mêmes en un débat, un invité spécial avec Monsieur Tony Toumagou qui est du HCI. Alors donc, nous avions prévu d'avoir Imal Kamar, réfugié au niveau du camp de Mbeira, également Ilad Ag Mohamed, qui est le porte-parole de la CMA, et également un représentant au niveau du ministère de la Solidarité et de l'Action Humanitaire. Mais avec tout cela, nous n'avons pas pu les avoir, faute du réseau, et sauf au niveau du ministère, où il n'y a pas, nos tentatives sont restées vaines. Alors, nous allons poursuivre. Est-ce que les réfugiés qui rentrent, les rapatriés, est-ce qu'ils sont accompagnés, Monsieur Tony Toumagou?
Oui, je vais commencer d'abord par dire que au niveau du HCR, il est estimé que les conditions ne sont pas encore favorables pour un rapatriement, une promotion du rapatriement volontaire. Cela n'empêche pas que les personnes qui vous souhaitent se rapatrier, étant donné que le rapatriement est un droit, nous facilitons, le HCR facilite leur retour, leur rapatriement. En l'occurrence ici au Mali. Au niveau du Mali, l'assistance qui a été décidée ici, surtout dans les régions du Nord, c'est une assistance à base communautaire, basée sur la vulnérabilité des personnes. Cependant, il y a aussi des assistances individuelles pour toutes les personnes qui se rapatrient. Et tantôt j'étais en train de dire qu'il y avait un rapatriement spontané. Nous avons quelques soucis pour maîtriser le rapatriement spontané, parce que, comme son nom le dit, il quitte le camp spontanément, et deux fois le ACR, ni le gouvernement d'accueil, l'état d'accueil, n'est même pas informé de son départ. Mais par contre, et c'est ce que nous encourageons le plus aux réfugiés, quand ils approchent le ACR dans le pays d'asile, et que ou bien le gouvernement dans les pays d'asile, et qu'ils marquent leur volonté d'être rapatriés, ils sont accompagnés. Il y a un viatique qui est leur donné au départ pour les faciliter dans le transport. Et à l'arrivée, bien sûr qu'ils arrivent dans leur zone de retour. Au niveau du Mali, le ministère de la Solidarité, avec l'appui du HCR, a pu identifier ou bien mettre en place 28 points d'enregistrement. Donc, quand ces personnes arrivent, ils sont enregistrés dans ces 28 points d'enregistrement. Eux, après l'enregistrement, ils reçoivent un surplus du viatique qu'ils ont reçu dans le pays d'asile pour les faciliter en transport. Ils reçoivent en plus un autre viatique qui est donné au niveau du Mali. Évidemment aussi, il y a d'autres activités mises en place, notamment la réhabilitation des maisons, notamment les activités génératrices de revenus. Ça peut être aussi des suivis de protection des abus, parce que les abus, ça peut être aussi à leur arrivée, toutes des violations de droits et tout. Il y a tout ce suivi qui est mené pour monitorer et même les référer vers les structures, que ce soit étatiques, mais aussi les autres partenaires, les autres intervenants dans différentes zones pour apporter assistance. Mais j'insiste que la plupart des assistances sont basées sur la vulnérabilité de personnes.
Mais quand vous dites que le HCR ne juge pas pour le moment les conditions adéquates pour le retour des réfugiés, mais le retour peut se faire de façon volontaire. Alors est-ce que ceux qui décident de venir d'eux-mêmes, est-ce qu'ils sont accompagnés?
Je corrige. C'est pas que le HCR ne juge pas que les conditions sont favorables au retour, mais que les conditions sont favorables à la promotion de rapatriement.
Okay.
Oui, il y a une très grande différence, parce que le HCR n'est pas là pour empêcher les gens à rentrer. Ce n'est pas du tout ça. Comme j'ai dit, c'est un droit. Mais pour que
ne les empêche pas, mais juste pour les sensibiliser.
Voilà. Le HCR ne va pas sensibiliser les gens à rentrer, parce qu'on estime que les conditions ne sont pas encore réunies. Cependant, la personne qui approche le HCR et dit qu'elle veut rentrer, le HCR va l'aider à rentrer en lui donnant toutes les informations sur sa zone de retour et, comme je disais tantôt, en facilitant, en lui donnant un viatique qui va lui permettre de payer son transport jusque là où il va, dans sa zone de retour, et aussi à l'arrivée, après l'enregistrement, on va encore lui donner un autre viatique qui lui permet de subvenir aux besoins élémentaires, aux besoins de base.
Nous allons donc parler un peu des réfugiés également qui se trouvent au Mali, qui ont quitté d'autres pays pour venir au Mali. C'est plus dans votre domaine d'expertise, parce que le HCR au Mali s'occupe des personnes qui ont quitté d'autres pays pour venir se réfugier au Mali. Alors, ils forment déjà une association. On va écouter le président des réfugiés qui se trouve au Mali.
Il y a près de 18 000 réfugiés au Mali, dont 15 000 à Kaï et plus près de 2 000 à Bamako et à Faraguara et à Sikasso. Voilà la situation statistique des réfugiés au Mali. Le HCR amène des activités genre le financement des AGR pour les aider à pouvoir s'insérer sur le plan social. Il y a des formations continues d'apprentissage, formation d'artisanat que nous mettons aussi en place avec les HCR pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver, d'avoir un métier et de s'insérer au Mali. Toutes les difficultés d'abord auxquelles le Malien fait face, nous aussi on en fait face, mais nous ajoutons aussi, nous avons forcément le problème de logement où ils sont déguerpis parce qu'il n'y a pas trop d'argent pour payer. Nous avons également le problème avec les banques qui n'acceptent pas les cartes officielles données par l'État malien, alors que l'autorité malienne c'est signé même par les ministres cette carte-là. Voilà un peu ce genre de difficultés que nous avons. Au-delà de ça, c'est des difficultés régaliennes.
Alors, il vient de le dire tout de suite, les conditions, les difficultés auxquelles ils sont confrontés au Mali, puisqu'il n'y a pas de camp de réfugiés au Mali, c'est pratiquement les logements et également les cartes. Est-ce que le HCR les aide par rapport à ces questions? Surtout d'habitation, de logement.
Oui, je pense que lui-même, il a donné une partie, pas une partie, mais il a donné une partie de la réponse par rapport à ça. Il a parlé des activités génératrices de revenus, il a parlé des aides de la formation professionnelle. Tout ça, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour les aider à pouvoir subvenir à leurs besoins. Parce que nous estimons que si quelqu'un à bénéficier d'une activité génératrice de revenus pourrait avoir des revenus ou bien des dividendes de cette activité et pouvoir s'autosuffire, pas seulement en payant son loyer, mais aussi en assurant d'autres besoins élémentaires. Ça peut être la nutrition ou bien l'éducation de ses enfants. Et la même chose aussi pour la formation professionnelle, pour les jeunes ou bien d'autres personnes qui arrivent à terminer une formation professionnelle, ils acquièrent de capacités à pouvoir monter ou bien pouvoir travailler dans n'importe quoi. Ça dépend de leur de la formation professionnelle, et avec ce travail, avec cette activité, pouvoir aussi pouvoir payer aussi le loyer ou bien s'autosuffire dans d'autres domaines, dans d'autres besoins. Donc je me dis que déjà la réponse est là, et nous sommes conscients de ce problème, et c'est pour ça que nous continuons à apporter cette assistance.
Alors, une question que les Maliens peuvent se poser, comment il se trouve que les Maliens déjà fuient le Mali pour partir dans d'autres pays et que d'autres personnes fuient leur pays pour venir? Est-ce que c'est parce qu'ils sont venus avant la crise?
Oui, nous avons, dans nos statistiques, nous avons des réfugiés qui vivent au Mali avant la crise du Mali. Il y a des réfugiés qui sont arrivés ici en 2003. Je n'ai pas les statistiques désagrégées pour dire combien à quelle année, mais il y a des réfugiés qui sont arrivés au Mali avant la crise du Mali. Mais vous pouvez, je vous dirai aussi que la plupart de nos réfugiés sont à Bamako, mm-hmm. et une grande partie à Kayes.
Et ils viennent de quel pays?
Les réfugiés au Mali viennent de ceux qui sont à Kayes sont plus viennent de plus de la Mauritanie. Ceux qui sont à Bamako, ce sont des Ivoiriens, des Congolais, des Centrafricains et bien sûr d'autres nationalités.
Merci beaucoup, Monsieur Tony Toumagou. Merci vraiment d'avoir répondu à beaucoup de nos questions, malgré le fait que la plupart des autres invités n'ont pas pu venir. Certains n'étaient pas disponibles parce qu'il y avait un problème de réseau pour les joindre. Et également, merci encore à vous, Monsieur Tony Toumagou. Alors, donc ce soir, nous parlions de la situation des réfugiés maliens. Quelles sont les conditions de vie de ces réfugiés? Alors, le débat a été réalisé par Ibrahim Haram Diallo, à la mise en onde de Seydou Simbo, présentation Mouhamadou Touré, à la régie vidéo Gagné Kanté. Merci et à demain pour un prochain numéro.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo
Dumonde.
Chenne Beri.